Et voici une émission spéciale de Des coups au cœur, votre émission littéraire par l'association Littera 05. Anne-Marie Smith a interrogé l'auteur sénégalais Mohamed Bougar Sarr sur son parcours. Il évoque également ses romans Terre Sainte, Silence du cœur et De purs hommes. Rencontre au fil des pages.
Bonjour, Mohamed Mbougar Sarr.
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous accueillir sur les ondes de Fréquence Mistral à l'occasion de votre venue à Gap, invité par l'association Littera 05. Donc, Mohamed, vous êtes né au Sénégal il y a 32 ans, c'est ça?
Vous me vieillissez légèrement.
Oh, bon. 31.
Il n'y a pas de. C'est vrai. Je suis né en 90, donc il y a 30 ans.
30 ans, mais oui. Vous avez passé votre enfance au Sénégal. Si je dis quelque chose qui ne correspond pas, vous m'arrêtez, bien sûr. Vous avez fait vos études secondaires au Prytanée militaire de Saint-Louis.
C'est ça.
Que l'on dit le meilleur établissement d'enseignement secondaire du Sénégal.
C'est pas moi qui le dis, mais bon.
Non, je l'ai vu sur Internet.
Qui a toujours raison.
J'ai vu sur Internet, justement, que la sélection est assez rigoureuse. 50 élèves sont choisis chaque année parmi plus de 3000 candidats garçons à partir d'un concours. Donc vous étiez parmi les sélectionnés, bien sûr. Si vous avez choisi, ou si vos parents du moins ont choisi le Prytanée militaire, est-ce qu'ils envisageaient pour vous une carrière militaire ou c'est simplement parce que c'était un bon établissement?
Alors, en réalité, c'est moi qui choisi de faire ce concours. Mes parents ne m'ont pas du tout encouragé ou obligé, encore moins à le faire. Et si je l'ai fait, ce n'était pas du tout par fascination pour la carrière militaire. C'était vraiment pour suivre des amis. Mes deux meilleurs amis de l'époque, eux, voulaient absolument faire cette école-là. Et moi, vraiment, dans un esprit de suivisme assez élémentaire, je me suis mis à leur... Je me suis dit que je ne voulais pas me séparer de mes amis, donc j'ai fait ce concours. Et
d'accord.
Il se trouve qu'on l'a eu tous les trois et nous avons pu rester pour cette raison.
Quel souvenir vous avez de vos 7 ans passés dans ce Prytanée? Parce que vous êtes allé du 6e à la terminale, je
c'est
suppose.
C'est ça, c'est vraiment un internat. Alors, au départ, évidemment, c'est un peu difficile parce qu'on y entre très jeune, on est séparé de sa famille, qu'on ne voit que lors des grandes vacances. Ce qui fait qu'on reste vraiment dans un environnement très nouveau, très militaire, très dur, avec des gens qu'on ne connaît pas, mais avec lesquels on est obligé de vraiment de se serrer les coudes pour créer cette camaraderie-là. Donc finalement, j'en garde vraiment un esprit vraiment de copain,
c'est que mes de camaraderie.
De camaraderie au sens militaire, avec ce que ça comporte parfois d'absolument comique, voire un peu désagréable, mais avec ce que ça comporte aussi de très beau dans le fait de traverser ensemble un certain nombre d'épreuves. Et à cela, je rajoute évidemment le fait que la qualité de l'enseignement était vraiment très belle. Et il y avait aussi, c'est là que j'ai commencé vraiment à lire beaucoup, énormément, et il y avait cette discipline qu'apportait aussi la formation militaire. Donc camaraderie, discipline, travail, tout cela semble très austère, mais il y avait aussi beaucoup de rigolades aux Prytanées.
Comme beaucoup, souvent dans les internats. Hein?
Bien sûr.
En tout cas, travail, oui, puisque vous obtenez le titre de meilleur élève des classes de terminale au concours général de 2009. Puis vous êtes venu en France après, donc, et puis après avoir fait Cagnes et Hippocagnes en lettres, vous avez rejoint l'école des hautes études en sciences sociales. Tout à l'heure, vous disiez que c'est là que vous avez commencé à lire. Bien justement, à quel moment vous vous êtes tourné vers la lecture, non, mais vers l'écriture? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur à un moment?
Alors, non. Parfois, je le dis avec beaucoup de déception parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui sont vraiment entrés en littérature, en tout cas dans l'écriture, à la suite d'un événement assez particulier.
Oui.
pour ma part, il n'y a pas eu d'événement fondateur, il n'y a rien eu d'exceptionnel. Vraiment, j'ai commencé à écrire au moment où je suis vraiment écrire, avec la régularité que ça suppose et la passion que ça suppose, quand je suis arrivé en France. Donc après le baccalauréat, quand j'étais en Hippocagne, justement. C'est parce que ça a correspondu à une époque où il y a tout un continent littéraire que je ne connaissais pas vraiment, qui s'est ouvert sous mes yeux. Et cette lecture intensive et cette fréquentation régulière, intensive de ces textes nouveaux ont créé quelque chose. Donc je dirais que s'il y a eu un événement, c'était un événement littéraire en réalité. Et que c'est de là que c'est sorti.
C'est la découverte surtout des auteurs du 19e ?
Je les fréquentais déjà un tout petit peu, puisqu'au Britannée, à côté des auteurs africains, sénégalais en particulier, on commençait déjà à être assez familier de certains auteurs du 19e siècle et de Balzac en particulier. Mon petit chéri.
Et oui.
Donc j'ai commencé déjà à les lire. Et c'est vrai qu'ici, j'ai pu approfondir tout ça et puis découvrir d'autres auteurs, d'autres espaces. Et tout cela a créé un bouillonnement. Voilà, c'était vraiment l'environnement qui a créé ça. Mais il n'y a pas eu de... Je dis souvent en plaisantant, je parle du japonais Haruki Murakami. Ah. C'est un écrivain voilà, très connu aujourd'hui, oui. Nobelisable, voilà, qui raconte souvent que lui, son entrée en écriture est très poétique parce qu'il raconte qu'il a commencé à écrire un jour où il était dans un stade en train de regarder un match de baseball. Et c'est qu'un jour, en voyant une trajectoire qui avait été frappée, la trajectoire était tellement belle, tellement pure, qu'il s'est dit bah, je vais devenir écrivain. C'est quand même assez formidable, comme ça, en voyant une balle comme ça, c'est de trouver sa vocation. Pour moi, il n'y a rien eu de tout cela.
Et est-ce qu'il a écrit après le mouvement de la balle?
Ah, je crois que son œuvre, oui, quand même, est assez pure et assez belle. Et assez, oui, elle peut être comparée à la trajectoire d'une balle de baseball. Je ne sais pas s'il serait d'accord avec cette interprétation, mais bon. C'est vous qui me poussez sur cette voie. Donc.
Alors, vous avez écrit 3 romans, autre chose aussi, des nouvelles, des textes, hein, mais nous nous attarderons surtout sur vos 3 romans. Donc, je les nomme Terre Sainte, qui a été publié en 2014 chez Présence Africaine, qui a déjà reçu des prix dès le départ, donc Grand Prix du roman Métis 2015, Prix Amadou Kourouma 2015, au Salon de Genève, je crois que c'est, hein, c'est ça.
C'est ça.
Donc, dès votre premier livre, vous recevez déjà 2, peut-être d'autres grands prix. Silence du cœur, donc en 2017, toujours chez Présence Africaine. Alors là encore, de nombreux prix. Prix Littérature Monde 2018, c'est le prix de Étonnant Voyageur, ouais, donc à Saint-Malo. Ouais. Prix littéraire de la Porte Dorée 2018, qui est un très beau prix, le prix du musée de l'immigration à Paris, oui, qui est un très très beau prix. Oui. Et puis De Purs Hommes, donc, publié en 2018. Je n'ai pas trouvé que vous ayez eu des prix avec De Purs Hommes. Vous en avez eu ?
Non, il n'y en a pas eu.
Ah, mais alors ? Donc, publié cette fois-ci chez Philippe Ray et aussi chez les éditions Jim San, qui sont installées à Saint-Louis du Sénégal. Pourquoi vous avez changé d'éditeur, là, entre Silence du cœur et De Purs Hommes?
Alors, d'abord parce que je voulais une maison d'édition sénégalaise pour ce roman, et la maison Jim San, qui a été fondée par des écrivains assez, dont certains sont très connus aujourd'hui, oui, Félouine Sarr ou Boubacar Boris Diop ou Nafissatou Dia,
qui fait partie de nos livres nomades avec son très beau livre sur le Rwanda.
C'est ça. Eh bien, cette maison me semblait tout à fait indiquée pour porter ce livre-là. Je voulais une maison qui soit vraiment implantée parce que c'est un livre que je destinais en particulier à un public sénégalais. Et il se trouve que Jim San pouvait assurer la distribution et la diffusion du livre au Sénégal. Mais mon éditeur m'a dit, donc Félouine Sarr, m'a dit qu'il trouvait aussi qu'il était intéressant que le livre puisse circuler dans un espace européen et français en particulier, et m'a proposé de faire une coédition avec Philippe Ray, qui est son éditeur, l'éditeur de Félouine Sarr. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Philippe Ray. Le contact s'est très bien passé.
Une belle maison d'édition.
Une belle maison d'édition qui a une histoire et qui a été fondée, qui est gérée par un homme très passionné, qui a une grande connaissance, une
Carole
très bonne
Joyce,
connaissance.
Carole Joyce, je crois, elle est chez Philippe Ray.
Philippe Ray, voilà, publie, entre autres, beaucoup d'Américains, mais la plus connue étant Joyce Carol Oswe.
Pour que votre livre soit lu au Sénégal, mais tous les Sénégalais ne lisent pas le français, j'ai noté qu'il y en avait à peu près, combien qui parlaient français, 37%, quelque chose comme ça, qui comprenaient et parlaient le français. Est-ce qu'il est traduit, est-ce qu'il a été traduit, votre livre, en Wolof ou en Séréré?
Non, il n'a pas été traduit, ça arrivera peut-être, mais c'est vrai que c'est une réelle question que Boubacar Boris Diop soulève souvent, d'ailleurs, celle de la traduction des œuvres ou de l'écriture des œuvres en langue nationale. Le grand problème, peut-être, c'est qu'au Sénégal, même si j'avais écrit directement en Wolof, je n'aurais pas été plus lu que si j'avais écrit qu'en français, tout simplement parce que le problème, en tout cas en l'état des choses, le premier problème le plus immédiat, c'est celui de la lecture. Je veux dire par là que le Wolof n'est pas enseigné à l'école, en tout cas pas à l'école publique, pas pour tout le monde. Quand on va à l'école au Sénégal, c'est en français qu'on apprend à lire et donc à écrire. Et c'est pour ça que naturellement, peut-être, en tout cas en ce qui me concerne, j'écris directement en français.
Si c'est j'avais, la langue officielle.
C'est la langue, c'est la langue administrative. En tout cas, voilà. Et si ça avait été en Wolof ou en Séraire, j'aurais écrit en Wolof ou en Séraire. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que la plupart des gens qui lisent en Wolof sont aussi des gens qui savent lire en français. Ce qui fait que ça ne change pas énormément le problème. La grande but maintenant, c'est de faire en sorte que les langues nationales, le Wolof, le Séraire, le Tukulaur, le Djola, le Bambara, puissent être enseignées à l'école. Et une fois que ça se sera fait, je pense que naturellement, il y aura beaucoup plus d'œuvres écrites directement dans ces langues nationales-là.
Boubacar Diop a publié
Il a écrit en Wolof. Il a traduit certains de ses livres qu'il avait d'abord écrits en français en Wolof. Et il a écrit directement en Wolof. Donc lui fait ce travail-là. C'est vrai, en tout cas, porte cette lutte-là depuis assez longtemps et milite beaucoup pour qu'il y ait un enseignement des langues nationales à l'école. Et que les écrivains écrivent directement dans leur langue pour être compris. Mais c'est un débat qui est encore très profond et qui divise encore beaucoup, mais qui existe, et c'est l'essentiel.
Et les éditions Jimsan, ils n'ont pas craint quand même avec votre livre de Purs Hommes, ils n'ont pas craint un petit peu... Ils prenaient un risque quand même en publiant votre livre, non?
Oui, mais bon, à partir du moment où j'avais moi-même énormément réfléchi avant de décider de publier ce roman, ils m'ont suivi, en tout cas Félwinsar en particulier, parce que lui-même pensait qu'il y avait dans la société un certain nombre de débats qu'il fallait au moins pouvoir poser, et que le roman était un canal particulièrement indiqué pour poser ces questions-là difficiles. Le pouvoir de la fiction se trouve aussi là, dans la capacité de problématiser des choses sans donner l'impression qu'on assène des thèses ou qu'on veut obliger les gens à croire ci ou à faire cela, mais c'est que le roman permet vraiment permet de déclencher une réflexion peut-être plus profonde et qui se fait entre soi et soi-même et qui n'est pas du tout...
Oui, mais il y a quand même des paroles très dures contre les homophobes, hein, quand même.
Oui, oui, oui.
Dans votre livre.
De la même façon, oui, c'est vrai, il y en a. En tout cas contre toute forme de violence faite contre les homosexuels ou contre la différence de façon plus générale, mais puisque c'est dans un roman, que c'est dans un personnage, que c'est un personnage qui les prononce, c'est toujours contextualisé, et que souvent il y a aussi un contrepoint qui est apporté, ça permet une réflexion, je pense, qui est plus nuancée et qui surtout permet de ne pas se braquer tout de suite à la référence.
D'où l'importance d'écrire un roman et non pas un essai, bien sûr.
Pour cette question-là, je pense que...
C'est vrai que vous auriez pu écrire un essai là-dessus.
Oui, oui.
Mais le roman, justement, permet de faire passer beaucoup plus de choses.
Je pense.
Oui. Alors, reprenons un petit peu chacun. Parce que, franchement, moi, j'ai tellement aimé ces trois livres que j'arrive pas à faire un choix. Si vraiment il fallait, je crois que ce serait celui-là. Mais bon, voilà, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des trois livres. Terre Sainte, donc, Dès la publication de ce roman, là aussi je l'ai vu sur Internet, vous avez été déclarée une des plumes les plus prometteuses de la littérature africaine.
Oui, bon.
Vous aviez 25 ans. Comment vous avez accepté ces hommages, ces louanges?
Bof. J'ai eu beaucoup de... C'est toujours très, très étrange d'entendre des choses... Pareil, mais en même temps, bon, je ne peux pas non plus, parce que le fait même de faire semblant
de les prendre de haut
pour produire un effet qui n'est pas du tout celui que je désirais, donc je les prends toujours comme des encouragements. Ça fait, je pense, oui, depuis que j'ai publié, il y a eu beaucoup de paroles très bienveillantes à mon égard, beaucoup d'encouragements. Et je le prends vraiment comme des sources de motivation pour essayer de faire toujours mieux. Mais évidemment, ce que moi-même, je pense de moi-même, je le garderai pour moi-même. Mais disons que ça ne correspond pas toujours à ce que l'on peut dire. Mais comme on n'a pas toujours une prise sur ça, on essaie toujours de le prendre avec la plus grande simplicité. Je pense qu'il faut essayer de faire ça, même si ce n'est pas toujours simple. Voilà.
Vous pouvez nous faire en quelques mots le résumé de Terre Sainte, parce qu'il y a moyen de le...
Alors, Terre Sainte, c'est l'histoire d'un petit village, d'une ville, dans un pays imaginaire en Afrique de l'Ouest, où des résistants, ou des gens, essaient de résister, en tout cas, cherchent des solutions pour résister à des milices terroristes islamistes qui sont présentes. Ces milices arrivent, veulent soumettre la population, veulent imposer leur vision de la religion, et à côté de cela, ils rencontrent un autre groupe qui publie un journal pour tenter de résister. Donc l'histoire raconte la confrontation entre ces deux groupes, et au milieu de tout cela, il y a deux mères de famille qui s'écrivent, qui sont deux mères qui ont perdu leurs enfants, lesquels ont été exécutés par ces milices, et ces deux mères échangent donc... sur la douleur d'avoir perdu un enfant dans ces situations, mais échange aussi sur ce que devient leur ville et comment est-ce qu'elles voient les choses. Donc c'est un peu le mélange de tout cela.
Voilà. Votre livre rappelle quand même le Mali, hein, qui a vu le nord de son territoire tomber en 2012, je crois, aux mains des djihadistes. Le Mali est très proche du Sénégal. Est-ce que ça veut dire que la mainmise justement des islamistes sur le nord du Mali, est-ce que ces événements ont été à l'origine de l'écriture de votre livre ?
Oui, très clairement, oui. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à réfléchir à la possibilité de faire un roman en m'appuyant sur cette réalité-là, cette actualité-là. Qui me touchait beaucoup, qui me touche encore, parce que malheureusement, ça continue au Mali, mais aussi à travers le monde. Il y a eu beaucoup de situations un peu comme ça. Mais c'est vrai que oui, au départ, c'était ça. En 2012, l'occupation, le siège du nord du Mali.
D'ailleurs, vous dites que ça continue justement dans l'épilogue. Une semaine après la révolte de ses habitants, Calais était facilement reprise par les islamistes qui revinrent en force avec un nouveau chef de police à leur tête. Et c'est un éternel recommencement.
Ouais,
on en parlera un petit peu plus ce soir peut-être. Et le film Timbuktu aussi peut-être, non? Parce que quand même il y a des choses dans votre livre qui font penser au film.
Oui. Alors c'est très curieux l'histoire avec Timbuktu, parce que les deux œuvres sont sorties à une semaine d'intervalle. Parce que c'est vraiment la même période. Donc beaucoup de gens, c'est vrai que le rapprochement a été fait, à juste titre, hein, parce que c'est exactement le même thème. Parfois, même dans le traitement, je trouvais qu'il y avait des choses, enfin des gens m'ont signalé, je trouve que c'était assez juste, qu'il y avait des choses qui se rapprochaient parfois.
Des personnages aussi.
Des personnages parfois. Donc bon, c'était une coïncidence vraiment, mais qui montre juste que bon, c'était une époque aussi où... Je pense les artistes étaient aussi préoccupés par ça, et bon, le fait qu'un si grand réalisateur comme Sissako, Abderrahmane Sissako se soit penché sur cette question-là montre que ça préoccupait vraiment beaucoup de beaucoup de gens. Donc il y a eu une sorte de...
Oui, c'est un film qui a eu beaucoup de succès. Je sais, mais il n'a pas été primé à Cannes aussi?
À Cannes, je ne sais pas. Et juste au César. Il a eu des...
C'est au César. Oui, je me trompe. J'aime bien qu'on lise un tout petit peu. Justement, vous parliez des deux mères. Donc, ce sont les deux mères. Au début du livre, deux jeunes gens sont exécutés, donc, ce que vous disiez. Et donc, les mères font un échange de lettres alors qu'elles ne se connaissent pas. La première, ça vous dit de lire, ou vous voulez bien ? La première, donc juste ce que j'ai noté. Elles ne se connaissent pas, donc elles vont faire connaissance par lettre interposée.
Oui. Je m'appelle Aïssata et j'étais là. J'aurais aimé que vous soyez là aussi. Oui, j'aurais aimé. J'aurais été moins seule, moins morte. Nous aurions été peut-être plus fortes à deux. Peut-être même que nous aurions réussi à changer quelque chose. Je vous ai attendu, je vous ai espéré. Quand nous avons été appelés, ma première réaction a été pour vous. Je vous cherchais, pour être certaine que tout était bien vrai, pour m'assurer que ce n'était pas un cauchemar, pour voir sur un autre visage la folie qui arrive. Oui, je voulais un miroir et vous étiez ce miroir-là. Il fallait que vous le soyez, j'avais besoin que quelqu'un le soit.
Voilà cette mère qui a... assister à l'exécution de sa, je ne sais plus si c'est sa fille ou son fils, la première. Et puis il y a la réponse de l'autre mère, juste quelques mots aussi. Je m'appelle Sadobo, mais vous le saviez déjà, votre lettre m'a fait du bien. Vous répondre me permet de me convaincre que je ne suis pas encore morte. Je ne sais pas comment vous avez pu y aller, je ne sais pas. Et je ne peux pas le savoir. Je vous en veux aussi. C'est à moi de vous retourner votre question. Vous espériez quoi en y allant? Vouliez-vous faire preuve de courage? Vous pensiez pouvoir tromper la douleur? Vous pensiez réellement que regarder la souffrance vous permettrait de finir par vous habituer à elle? Vous pensiez vraiment que votre présence pouvait les sauver? Vous sauver? Vous êtes naïve. Voilà, et il y a tout le long des lettres comme ça entre les deux femmes qui sont vraiment très très belles. Alors, tout à l'heure, vous parlez, ce que vous avez nommé, que les résistants ont fait un journal. Hein, ils ont fait un journal. Donc, c'est par l'écriture que, bien sûr, que la résistance peut s'organiser. Et l'importance de l'écriture, bien entendu. Est-ce que ce roman a valeur d'alerte, en fait, par rapport au djihadisme, par rapport à l'intégrisme?
Alors, bon, si c'est une alerte, c'est une alerte bien tardive, parce que il a été écrit après.
Oui, mais enfin, comme vous dites, ça continue.
Mais après, voilà,
même.
Ça continue, c'est peut-être comme rappel, et puis comme tentative de montrer ce que ça peut produire dans les esprits, mais aussi ce que, oui, de façon négative, mais aussi positive, ce que ça peut produire comme sursaut, comme tentative d'aller rechercher des formes de courage, de résistance. Donc oui, il peut valoir pour ça, comme rappel.
Vous dites qu'à un moment, que la littérature ne peut pas changer le monde, mais défier la réalité en fait toute la beauté. Oui. Donc le but d'un livre, ce n'est pas de changer le monde. Ça peut avoir un effet chez le lecteur, mais ce qui ne changera rien à ce qui se passe.
Bon, disons que, oui, c'est peut-être un changement toujours très indirect. Je pense toujours, je continue à penser que ce sont vraiment les hommes et les femmes, évidemment, qui changent le monde. Et que de moins en moins, c'est assez rare qu'un livre, aujourd'hui en tout cas, il y a une époque où c'était peut-être le cas, mais aujourd'hui un livre qui change le monde... ça me semble compliqué, mais il peut transformer un tout petit peu un lecteur, et le lecteur ensuite dans sa vie, dans ses réflexions, dans les rapports qu'il a avec les autres, le rapport au monde, sa façon d'être au monde, peut changer de façon très infime peut-être dans son échelle, et puis très, très modeste, c'est vrai. Mais les livres, bon, tout en y croyant profondément, je ne les dote pas non plus d'une puissance que je pense qu'ils n'ont pas ou non plus, je ne sais pas. Mais je pense que bon, après quand on est écrivain, évidemment le paradoxe est là, on se demande à quoi est-ce que l'on sert au fond, mais c'est une question assez insoluble, difficile. Il faut simplement essayer de faire son travail, tout en sachant qu'il y a de grandes chances qu'on ne serve pas énormément, mais bon, il faut quand même, je pense, continuer.
Oui, c'est comme dans, justement, Terre Sainte. L'écriture devient une arme avec la parution du journal, oui. Mais ça ne change rien non plus.
Disons que oui, ça change peut-être un tout petit peu, mais bon, je ne veux pas paraître... Alors, c'est un peu différent parce que c'est de l'écriture, mais au moins là, c'est du journal.
Disons, oui, c'est que pas c'est, pareil c'est, qu'un
c'est,
roman.
C'est plus une écriture de combat, c'est plus affirmé. Dans le roman, par la poésie, il peut y avoir des romans de combat, des poésies de combat, mais est-ce que ça change plus vite, plus profondément les choses? Je ne sais pas. Disons que ça agit en des points qui sont peut-être moins immédiatement visibles et qui sont plus lents, et que ça agit surtout sur des esprits ou des âmes. C'est vraiment des transformations, s'il y en a, ou des bouleversements très, très lents. C'est le temps vraiment géologique. C'est,
d'accord. Voilà. Alors, on passe au deuxième, Silence du cœur, donc. Dans ce deuxième roman, vous abordez un sujet ô combien actuel, celui des migrants africains qui fuient leur vie difficile et souvent misérable pour arriver en Europe. Et ici, ils arrivent en Sicile, dans une petite ville tranquille que vous avez imaginée, Altino. Ils sont 72 garçons jeunes que vous appelez les ragazzi. Comment leur arrivée va être vécue par la population? C'est le sujet du livre, bien sûr. Il y a ceux qui accueillent bras ouverts, oui. En particulier une association, et qui va les aider, bien sûr. Et il y a ceux chez qui l'arrivée des migrants fait naître des sentiments de haine qui ne feront que s'exacerber tout au long du livre. Oui. Alors, quel est le point de départ de ce livre? Vous êtes allé en Sicile rencontrer des migrants?
Oui. Oui, je suis allé en Sicile où j'ai rencontré des migrants, mais je n'y étais pas allé pour ça. C'est, disons que le livre est né un peu pas par hasard, mais ce n'était pas un livre programmé. Je ne suis pas allé en Sicile dans le but clairement défini de rencontrer des réfugiés, d'aller dans une petite ville où il y en avait pour écrire un roman. Ce n'était pas du tout un reportage ou un travail de terrain. J'y suis allé pour des raisons tout à fait autres. Et ce sont les circonstances sur place qui m'ont mené petit à petit à écrire.
Donc,
mais j'en ai rencontré, oui, dans un petit village en Sicile, oui. Et c'est cette expérience-là qui a été décisive, mais elle n'était pas calculée ou prévue.
Vous avez joué au foot avec eux?
Bien sûr. Ça, c'est, je tiens à le dire haut et fort, ce sont mes plus belles, peut-être mes plus beaux moments passés en leur compagnie, les parties de football avec...
Parce que dans le livre, vous lui faites jouer un rôle au foot. Hein?
Ah oui, ça a un rôle, vraiment.
Bien sûr.
Dans ce temps-là, qui est un temps très long d'attente. D'incertitude, d'angoisse, de souvenirs douloureux. Vraiment, ça, ce rôle-là d'échappatoire, même provisoire, d'une évasion même provisoire, ça atténue un tout petit peu. La douleur de la situation présente et ce sont toujours des moments de oui aussi de franche camaraderie d'une certaine façon. Je crois que beaucoup de ces migrants que j'ai rencontrés puisaient vraiment dans ces parties de football du courage, vraiment quelque chose qui leur permettait quotidiennement de repartir à l'assaut de cette montagne administrative et humaine aussi vraiment,
et puis c'est une façon de faire sortir de soi la violence que l'on peut avoir.
Exactement.
Alors les personnages, c'est un roman choral, donc c'est-à-dire chaque chapitre est construit, ou du moins la plupart des chapitres sont construits autour d'un personnage, et on a comme ça plusieurs récits de vie. Ça vous permet d'aller vraiment au fond des choses, au fond, essayer de comprendre chaque personnage. C'est ça qui est intéressant dans ce livre-là. C'est pas du tout superficiel. Vous sondez les personnages, vous trouvez chez tous les motivations qui les poussent à faire ça, qui les poussent à adopter telle ou telle attitude, aussi bien chez les gens du village, chez ceux qui accueillent, que chez les migrants, justement. Et quelle enfin assez rapidement, parce que ce serait peut-être un petit peu le droit à dire, mais quelles conclusions vous avez tirées justement sur la condition humaine en parlant de ces, en allant comme ça au fond des personnages?
Alors, s'il y a une conclusion, alors je pense qu'après le livre, chaque lecteur pourra s'en faire une selon sa sensibilité, son histoire, sa compréhension des choses et son interprétation du monde. Mais ce que j'en ai quand même vu, c'est que ce que l'on appelle un accueil, qui semble si évident, si facile, est peut-être la chose la plus difficile à faire quand on est un être humain. Ce que j'ai compris et qui n'est pas une leçon très optimiste en réalité, c'est qu'accueillir un autre homme ne va pas de soi. C'est un vrai effort, c'est un combat, c'est une lutte, parfois contre soi, contre sa propre culture, sa propre, voilà, sa propre histoire. Et ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est d'autant plus beau qu'on se bat pour ça. Et c'est peut-être ce que je pourrais en avoir retenu.
Justement, en parlant d'accueil, Carla, une des femmes, je dirais, très importantes de l'association, elle pose une question à Jogoy, qui ne fait pas partie des 72, mais qui est arrivé avant et qui connaît l'italien. Toi qui as, d'une certaine manière, été à leur place il y a quelques années, je voudrais que tu me dises, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça signifie pour toi, être accueilli? Je crois que c'est se voir offrir autre chose qu'un toit et du pain. C'est se voir offrir autre chose que l'hospitalité. C'est égoïste peut-être. Manger et avoir un toit sont deux choses importantes, vitales, mais pas essentielles. Ça ne suffit pas. Les hommes, tous les hommes, ont besoin de raisons de vivre plus profondes. Et en fait, est-ce qu'on est capable justement d'offrir ça aux migrants que l'on accueille?
C'est la question. Je crois que, bon, je ne voudrais pas non plus sous-estimer le travail formidable que toutes les structures qui accueillent font, malgré toutes les difficultés. C'est quand même un travail absolument nécessaire. Mais c'est vrai que, oui, le fait de vraiment d'être dans la matière humaine, de faire face à un homme et de s'ouvrir à lui comme un autre homme. Et puis, ce sont des choses très difficiles qui ne se passent pas toujours, c'est-à-dire qui n'adviennent pas toujours, parce que c'est très compliqué. Il faut du temps, il faut arriver à se comprendre parfaitement ou apprendre à se connaître, ce que le temps n'offre pas toujours, ce que les situations et les urgences et leur diversité n'offrent pas toujours. Il y a des cas où ça arrive. Et puis dans d'autres cas, c'est simplement plus administratif. Il n'empêche que, je pense qu'au moins, il faut essayer d'assurer le minimum, l'essentiel, vraiment, qui est d'accueillir et d'offrir, comme je disais, le toit et le...
Mais enfin, avec, ne serait-ce qu'avec le titre, « Silence du cœur ». Est-ce que ce silence, c'est celui que, justement, c'est celui qu'on apporte? C'est une réponse de notre part justement à la demande des migrants, c'est ça, le silence?
On peut l'interpréter comme ça. Dans le livre, le silence est plutôt celui qui... En fait, c'est le silence auquel tout le monde, finalement, est réduit après un certain nombre d'événements qui constituent la fin du livre. Mais disons que c'est le silence dans lequel on s'installe ensemble, une fois que la colère semble à un moment donné dérisoire, une fois que les paroles même peuvent sembler dérisoires, il s'installe un silence qui est peut-être la possibilité d'une fraternité. En tout cas, c'est le silence qui rappelle que devant la nature, devant les éléments, on reste des êtres humains très très fragiles tous, et que nous sommes tous liés par cette condition-là qui est celle de la fragilité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester évidemment silencieux devant ce qui se passe. Il faut au contraire prendre la parole.
Oui, la preuve, c'est la fin de votre livre. Voilà. Hein, c'est la fin de votre livre, l'écriture, la mémoire.
Oui, tout à fait.
Mais cette fin, justement, bon, il faut pas, on dit qu'il faut toujours pas, il faut pas révéler, enfin, etc. Mais c'est une fin cataclysmique, véritablement. Est-ce que c'est, moi, je me suis dit, ben, c'est la Terre qui a le dernier mot. C'est la Terre. Est-ce que c'est prémonitoire de ce qui risque de nous arriver?
En tout cas, je pense que c'est une possibilité.
Une possibilité.
À laquelle, d'ailleurs, nous autres humains travaillons allègrement.
Il y a un volcan à la fin, il y a l'Etna qui se réveille.
Voilà, donc cataclysmique, voilà. Mais c'est vrai que, bon, c'est le volcan, on ne contrôle pas toujours, mais de façon plus... Ça peut symboliser aussi, oui, la planète et les éléments naturels que l'on est en train de dérégler par notre action et par de l'action humaine.
Et la Terre qui reprend.
Voilà, qui reprend ses droits et qui montre que très facilement elle peut nous balayer et nous réduire un peu, nous ramener à cette fragilité dont je parlais. Donc c'est tout le sens de cette fin-là. Sachant aussi que, en Sicile en particulier, l'Etna a encore une présence très forte, qui n'est pas simplement une présence un peu naturelle qu'on regarde, qu'on contemple, qu'on photographie. Devant laquelle on rêve, ça a une vraie présence quasiment spirituelle jusque dans la vie quotidienne. Voilà. Donc c'était aussi important pour moi de rendre à l'Etna cette force-là.
Et enfin le troisième, De Purs Hommes. Donc De Purs Hommes avait été choisi parmi les 12-13 livres qu'on a choisis. Et les retours qui nous viennent sont vraiment dithyrambiques. Hein. Tout le monde a beaucoup aimé ce livre.
Hein. Merci beaucoup.
Voilà. Alors, c'est l'histoire de, je ne sais pas comment on prononce, Ndenegay.
Ndenegay.
Oui. Jeune professeur de lettres sénégalais qui visionne une vidéo virale où le cadavre d'un homme est homosexuel, on pense, parce qu'il est homosexuel, qui est déterré dans le cimetière musulman et traîné hors du cimetière justement par une horde de gens en colère. Alors le livre est fait de l'évolution de ce personnage. Au début il est indifférent, même plus que ça, il est d'accord avec ce que les gens pensent des homosexuels, qui considèrent justement l'homosexuel comme une aberration de la nature, des gens qu'il faut éliminer, etc. Hein. Et il va peu à peu, justement, évoluer. En quelques mots, vous pouvez nous dire l'évolution du personnage?
Eh bien, alors son évolution, oui, correspond à une série de rencontres. Mmh. Parce que le livre est aussi jalonné comme ça de rencontres qu'il fait.
Et chacune
des femmes.
Les femmes ont le beau rôle dans vos livres.
Oui, il paraît. Il paraît.
Bon. Dans chacun de vos livres.
Dans chacun, il y a quand même des... Alors que je ne cherche vraiment pas à, comment dire, c'est une digression là, mais je ne cherche pas toujours à mettre en avant des personnages féminins, c'est-à-dire au sens où je voudrais montrer que les femmes sont des femmes fortes. C'est devenu quasiment un cliché aujourd'hui. Parce que je pense qu'il n'y a pas... Si, c'est un débat. Certains pensent qu'il faut le montrer. Moi, je ne cherche pas à le montrer particulièrement. C'est simplement que je trouve que c'est comme ça. C'est presque naturel chez moi et pas une construction...
D'accord.
Qui viserait à faire un éloge comme ça des femmes. Je trouve qu'elles le sont et que...
Elles sont lumineuses, vos femmes.
Naturellement. Comme elles peuvent aussi receler une part d'ombre, il faut aussi le montrer quand c'est le cas. Parce que c'est en ça qu'elles sont aussi pleinement humaines. Il faut aussi le montrer comme ça. Ce personnage-là rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, qui interroge son rapport à la question de l'homosexualité, à la question de la différence dans sa société, la société sénégalaise. Et de, oui, un peu indifférent, mais un indifférent, oui, un peu homophobe sur les bords, il commence petit à petit à prendre conscience qu'il y a derrière cette facilité-là du rejet des vies humaines qui comptent. Qui ont de la valeur, qui ont de la dignité, et il se met à la quête. Le livre est aussi construit un peu comme une sorte d'enquête, hein, parce que l'un de ses objectifs est de savoir qui était vraiment cet homme déterré au début du du roman. Donc il cherche, trouve à quelques réponses. Parfois, c'est des impasses, il ne trouve pas, mais il continue jusqu'à ce que, voilà, il ait les idées un peu plus claires, vraiment sur l'identité de cet homme-là. Et cela déclenche en lui un certain nombre de réflexions. Il s'interroge lui-même sur le rapport qu'il a pu avoir avec la différence.
Voilà, vous dites qu'il rencontre justement, je vais pas prendre les passages avec les deux jeunes femmes là qui l'ont beaucoup aidé. Si vous voulez nous lire la rencontre qu'il a avec la mère de celui qui a été déterré, c'est très beau. Donc il va rencontrer la mère du jeune homme qui a été déterré.
Je n'arrivais pas à la regarder plus de quelques secondes. Chaque fois que je croisais son regard, la douleur que j'y voyais m'était insoutenable. Elle marquait non seulement ses yeux, mais aussi chaque trait de son visage, chacune de ses expressions, chaque geste de son corps. Avant de la voir là, sur son lit, dans cette chambre misérable et nue, je n'aurais jamais cru qu'un corps humain pût porter sur lui, comme un habit noir, autant de douleur. Il suffisait de la voir pour comprendre qu'elle souffrait de la peine la plus sacrée qui soit. C'était une femme égarée, hagarde, pas même vieille puisque le temps glissait sur elle, perdue dans un monde dont le sens lui avait échappé, définitivement échappé. Lorsque nous étions entrés dans la chambre, elle était ainsi, figée dans ce qui n'était même plus de la souffrance, pieds nus. Elle nous a prié de nous asseoir sur une natte en face du lit, contre un mur, puis s'est excusée de ne rien avoir à nous offrir. Ensuite, elle a replongé dans un mutisme que nous n'osions pas rompre. Ce puits de silence, elle seule en connaissait le fond tari, où il n'y avait que solitude, soif et désir de mourir.
Voilà un très beau passage, hein, la douleur de cette femme qui a vu son fils déterré et qu'elle va réenterrer elle-même, hein, parce que personne ne veut s'occuper de son fils. Voilà, on va s'arrêter là. Je dirais simplement qu'il y a aussi une très belle nouvelle qui s'appelle La Cale, que j'ai mise sur notre site, je me suis permis, l'autorisation.
Vous avez eu raison, qui traite
justement de la traite esclavagiste et qui a reçu le prix Stéphane Hessel de la jeune écriture francophone. Oui. Voilà, nous ne sommes pas allés au fond des choses, bien sûr, nous n'avons pas le temps, mais j'espère que ce soir, nous développerons encore d'autres sujets. Merci beaucoup, Mohamed.
Merci beaucoup.